Le RKS Foot Time Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS. Le RKS Foot Time Show.
Allez, bonjour à tous. On est lundi 19h, c'est l'heure du RKS Foot Time Show, votre émission 100% football. Aujourd'hui, une grosse actu puisque nous sommes déjà dans les dernières heures de ce mercato de folie qui s'agite un petit peu de partout, un petit peu de tout, un petit peu de n'importe quoi en cette fin de mercato. Mercato Covid, messieurs, mes deux acolytes sont bien sûr avec moi. Salut Kevin.
Et salut Melvin, bonsoir à tous.
Comment tu vas?
Bah ça va pas trop mal, hein. On a passé un bon week-end. J'ai appris une belle signature de la Juve ce matin, donc tu vois.
T'étais content,
ouais,
on va en parler. Hein.
J'étais content.
Bon, et toi mon Pierrot, comment ça va?
Bah écoute, ça va, la forme, bonsoir à tous, excité là, à quelques heures de la fin du mercato, je sens que ça nous révèle de belles surprises, on va commencer à en parler ensemble, c'est génial.
Justement, le sommaire aujourd'hui, on va parler justement de ce mercato, de ces dernières heures de folie, les bonnes affaires ou les mauvaises affaires, on va voir ça. Nous parlerons également un petit peu des championnats d'Europe, ce qui s'est passé, il y a notamment une grosse actu en Italie avec le Napoli qui s'est pas déplacé du côté de Turin. On va parler également du tirage de la LDC, de la Ligue 1 et du GF38 où on aura l'honneur d'avoir mon ami la Suède, l'ancien capot des Red Chaos, qui reviendra avec nous sur le début de saison du GF38.
Le Zlatan Ibrahimovic du...
Des supporters.
Voilà, c'est passé bien ça.
Qu'est-ce qu'il est bon.
On aura de la matière.
Voilà, on aura de la matière. Messieurs, ça y est, on est dans les dernières heures du mercato. Ouais. Ça s'agite un petit peu de partout. On entend des noms, on entend de tout, messieurs. Kevin, je sais que tu as fait un petit tour.
Ouais.
On parlera. Ce n'est pas une blague, hein, de Choupo-Moting et de Bounassar du côté du Bayern de Munich.
Ouais.
On n'est pas sur des blagues, messieurs. C'est la réalité de ce mercato fou du côté du Covid. Allez, mon petit Kevin.
Allez, un petit point mercato, notamment par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, parce que, et je trouve notamment hier, il y a eu pas mal d'accélération dans pas mal de dossiers, notamment des dossiers qui concernent nos clubs de Ligue 1.
Et c'est assez rare que ça bouge la veille en général. Hein.
Ouais,
ça joue sur les dernières pages mercato, ça jouait dans les 4-5 dernières heures, et hier on avait l'impression que c'était une journée de clôture.
Ouais, c'est vrai, mais bon, d'un côté, je pense qu'ils avaient bien envie d'avancer. Et puis, il s'est tellement rien passé quasiment pendant ces 3 mois de mercato.
C'est ce que j'allais dire. Il s'est peut-être rien passé aussi. On voit la situation économique qui se tend de plus en plus.
Ouais.
Je pense qu'il y a aussi ce signe qui fait que ça accélère les choses.
Et finalement, tu vois, c'est les gros clubs finalement qui en pâtissent le plus, je trouve, parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une grosse somme dépensée à Paris, un peu de partout. Et finalement, ils ont été tous très prudents. On va commencer justement par le PSG, parce que le PSG enregistre 3 arrivées. Le jeune Moïse Keane qui vient en provenance d'Everton. Joao Mario qui est acheté à l'Inter de Milan. Et Danilo Pereira, le capitaine du FC Porto, le milieu défensif, qui donc du coup va rejoindre également en prêt avec option d'achat le club parisien. Pierre, toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, justement?
Je suis ravi dans l'ensemble. Je pense que ça vient combler les lacunes qu'avait le Paris Saint-Germain jusqu'à maintenant. Quand on parle du mercato parisien, faut pas oublier qu'il a commencé il y a déjà plusieurs semaines avec la signature d'Icardi. C'est important d'en parler parce que mine de rien, c'est quand même une somme prépondérante. On parle de 54 millions d'euros. Donc forcément, ça conditionne déjà un petit peu le reste du mercato. Je trouve que c'est un mercato qui a été intelligent dans son ensemble. Et c'est vrai que ces 3 dernières recrues viennent combler les derniers manques parce que Idrissa Gueye, qui devait s'imposer comme numéro 6, pour moi manquait un petit peu de volume de jeu, donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est comblé par le recrutement qui a été fait hier. J'étais aussi un petit peu inquiet forcément par rapport à Icardi, la saison qu'il faisait et surtout la fin de saison qu'il a fait l'année dernière, donc je pense que c'est une bonne pioche. Après on recrute un latéral pour venir éventuellement faire le tourner avec Icardi. Ce poste, c'est pas forcément un joueur qui évolue sur un poste de numéro 9. Mais je trouve que ça donne de la profondeur au banc. On n'a pas recruté des titulaires, mis à part sur le poste de numéro 6, avec, comment il s'appelle, j'ai mangé son nom.
Pereira.
Avec Danilo, qui lui vient pour un poste de titulaire. Pour les autres, après, ça va être que de la profondeur de banc. Donc ça vient développer, étayer. Il n'y aura pas de révolution à part au milieu de terrain. Mais c'est vrai que j'espère que l'arrivée de Danilo permettra enfin à Verratti de pouvoir avoir le rayonnement d'antan. Et voilà, je pense que la bonne pioche de ce mercato, c'est Danilo, qui vient enfin, selon moi, prendre la place de Thiago Motta, siège qui est resté vacant pour moi beaucoup trop longtemps.
Alors après, moi, j'aimerais poser une question. Est-ce que c'est ambitieux ? Excusez-moi, moi, messieurs, hormis Danilo Pereira, je ne trouve pas ce recrutement ambitieux. Parce que,
Je suis d'accord.
Parce que Moïse Keane, ça part de la Juve, c'était moyen. Ça, Everton, c'est un flop total.
Non, alors Moïse Keane, c'est un jeune joueur très prometteur. Il fait 6-7 bons mois à la Juve quand il commence un petit peu à jouer. Et dans l'effectif qu'on connaissait à la Juve, où c'était quand même compliqué de prendre en tout cas sa place, mais il a joué sa carte. Moi, je pensais vraiment qu'il ferait quelque chose à Everton. Et au final, bon, il commence avec un entraîneur qui se plante totalement. Et puis derrière, il y a Ancelotti qui arrive et ça va pas mieux. Donc, ça reste, vu que ça reste un prêt, une prise de risque, ouais. Prise de risque limitée pour le PSG. Mais moi, je suis assez déçu quand même aussi parce que, je sais pas, le PSG, justement, quand t'aurais un attaquant, un numéro 9, qui te plante 40-45 buts par saison, qui permet à la Lewandowski, t'as pas besoin d'aller te chercher une superstar en numéro 2. Un Moïse Keane, ça peut suffire pour faire justement la profondeur. Mais t'es face à Icardi, t'as en face de toi Icardi. Est-ce que Moïse Keane va prendre la place d'Icardi ? Tout est possible dans le football, mais j'ai quand même du mal à imaginer que Icardi se sente menacé. Or, je pense que Icardi a besoin de se sentir un petit peu bousculé, de penser que sa place n'est pas garantie dans ce 11, surtout après la fin de saison qu'il a faite, même si on est tous d'accord pour dire que Icardi a des qualités, hein. Je dis pas le contraire.
Ah, mais aucun problème là-dessus.
Voilà. Mais après, derrière, Joao Mario, mais ça m'a fait rire. Joao Mario, c'est une blague, mais personne ne le voulait. Leonardo, vu qu'il a ses réseaux au cœur en Italie, dit bonjour, moi je suis le pigeon du siècle, je vais venir vous prendre Joao Mario. Mais personne n'en voulait, il a fait un prêt à West Ham, c'est pas Manchester, hein, c'est City.
C'est pour ça que je te dis.
Et même West Ham n'a même pas voulu le reprendre. Conte ne l'a jamais fait jouer ou presque depuis qu'il est arrivé à l'Inter. Il a été recruté quand même 45 millions d'euros il y a 4 ans. Aujourd'hui, il le revend 10 millions d'euros. Je veux dire, c'est absolument n'importe quoi. Par contre, Danilo Pereira, très bon choix, pilier de Porto.
Non,
à ce poste-là, le PSG en avait besoin.
Aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur recrutement aujourd'hui du PSG.
Pour moi, ce qui est important, c'est toujours de regarder par rapport à N-1 et voir si l'équipe arrive à s'améliorer. Parce que le but d'un mercato, c'est d'améliorer les équipes et les effectifs. Bon, c'est pas le cas pour tous les clubs de Ligue 1, parce que malheureusement, il y en a qui subissent la Première Ligue. Le Paris Saint-Germain peut se targuer de ne pas avoir ce problème-là et de pouvoir se bonifier d'année en année. Moi, le seul poste aujourd'hui qui m'inquiète un peu par rapport à l'année dernière, c'est le poste de numéro 9. C'est le poste de numéro 9 parce qu'il y a Cavani qui est parti, il y a Choupo-Moting qui est parti. Je rebondis juste sur ta blague, Kevin. Moi, je l'accepte, je l'entends. Néanmoins, ce joueur-là, si à un moment il a été vendu 45 millions, c'est qu'il avait quand même 2-3 talents en lui. Talents perdu ou surestimé, on le verra. Mais en attendant, quand Bernat arrive du Bayern de Munich, Bernat, quand il arrive du Bayern de Munich au PSG, j'ai tous mes potes qui se foutent de ma gueule et qui disent Bernat, oh les gars, c'est la risée de la Bundesliga, pire latéral, tu fais pas. Ce mec-là, il est bon pour prendre sa retraite. Et en attendant, le mec, il fait des prouesses aujourd'hui.
Oui,
il a annoncé partout.
Non, mais il peut y avoir des surprises. Choupo-Moting, il peut y avoir des bonnes surprises.
Choupo-Moting, le mec champion du monde de MMA, à la retraite depuis 7 ans. Et le mec, on le recrute, il est libre, personne le veut. Et en attendant, il te plante des buts hyper importants en phase finale de Ligue des Champions.
C'est pas un recrutement réussite non plus.
On l'a pas payé, ce mec-là. On lui a versé un salaire. En attendant, pour le reste, mais Florenzi, super poche au poste de latéral 3. Oui, le latéral gauche, c'est pléthorique entre Becker. Ce que je veux dire par là, c'est que, à part ça, mon Kevin, à part le poste de numéro 9.
On s'attendait à mieux. Non,
tu voulais qui ? Diego Costa ?
C'est pas ça. Non, c'est
Diego
pas ça.
Costa qui change autant de femmes que
je suis pas d'accord.
J'attendais un grand nom.
Non, il fallait. Mais même, c'est pas forcément un grand nom. Florenzi, c'est pas un grand nom, et comme l'a dit Pierre, je suis d'accord avec lui, c'est une très bonne pioche, et surtout à ce prix-là. Je dis pas que Joao Mario, financièrement, c'est une mauvaise pioche, parce que 10 millions d'euros, de toute façon, aujourd'hui, avec 10 millions d'euros, t'as rien.
C'est un miracle.
Donc, 10 millions d'euros, à la limite, l'Inter s'en sort bien en le vendant, mais le PSG, c'est pas un trou dans la chaussure. Moi, je trouve qu'en termes de profil, c'était pas le profil qu'il fallait au PSG. En fait, le PSG a échoué en finale de Ligue des Champions. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce qui te manque pour gagner la Ligue des Champions ? Est-ce qu'il te manque un Joao Mario ? Non. Même en profondeur de banc, ça te sert à rien. T'as déjà Herrera, t'as déjà Paredes, t'as déjà Gueye.
La question, elle est
sûre. Il aurait fallu dégraisser.
Réponds, Kevin. Qu'est-ce qui a manqué au Paris Saint-Germain pour gagner en finale de la Ligue des Champions?
Bah, il te manquait un vrai numéro 9. Essentiellement, il te manquait pas grand chose.
Pour moi, je suis pas d'accord.
Mais non,
à la preuve, regarde, ils ont pas réussi à marquer contre le Bayern.
Il manquait de l'expérience. Il manquait un Verratti à 100% en début de match. Oui, le milieu de terrain,
l'expérience, c'est pas Mario qui va l'apporter.
On a joué avec Paredes.
Bah oui,
c'est pas Mario qui va l'apporter.
On a joué avec Paredes. Non, pour moi, le problème, il était pas là. Le problème, on perd le match contre le Bayern de Munich parce que on a Mbappé et Neymar qui passent au travers. Mais quand je te dis au travers, c'est même plus un travers là. Ils ont fait c'est la diagonale.
Parce que ils jouent pas à leur poste.
Justement, parce qu'ils sont passés
avec Paredes, mais pour moi c'était pas le problème du numéro 9. On n'avait pas
mais
besoin.
C'est un problème de grands joueurs qui sont passés au travers.
Voilà, mais pour moi, le Paris Saint-Germain en l'état actuel des choses, oui, avait besoin d'un vrai numéro 9 de métier. J'aurais aimé avoir une vraie doublure pour Icardi, mais c'est pas le problème du numéro 9 qui nous fait perdre la Ligue des Champions,
ah non,
les gars.
C'est pas le problème du numéro 9, mais
tu joues avec tous les numéros 9 du monde, on perdait quand même.
Quand t'as des ambitions, le Bayern de Munich, s'ils ont gagné la Ligue des Champions, c'est certainement grâce aussi à Lewandowski. Mmh. Donc voilà, il y a aussi ça. Bon, messieurs, c'est pas leur caisse.
On va
foutre un PSG ici.
Voilà.
Hein. Donc bon,
allez, on
parle de
rapidement.
L'OM,
cuisance.
Cuisance.
Ah, ouais, ça, c'est une bonne pioche pour l'OM quand même.
Bonne pioche, attention. Apparemment, là, sur ce que je suis en train de lire, il serait en train de se faire doubler par Leeds. Ah. Puisque Cuisance serait à Leeds pour passer sa visite médicale
magnifique.
Ce matin.
Leeds, ils ont combien d'équipes en première ligue? Parce qu'ils recrutent 4 joueurs par jour.
Pardon. À Leeds. Arrivé à Leeds pour passer sa visite médicale.
C'est quoi ce club?
Non, c'est incroyable. Hein. C'est pas des conneries. Puisque Cuisance devait être dans la balance pour le transfert de Bounassar.
Hein. Ouais.
Apparemment, Cuisance est en train de passer sa visite médicale à Marseille. Donc,
il est à deux endroits en même temps.
Il est à deux endroits. Regarde, arrivé à Leeds pour passer sa visite médicale sur notre grand quotidien français. Hein,
bon,
donc,
écoute, on verra.
À l'OL, ça bouge aussi.
À l'OL, ça bouge aussi parce qu'il y a Deschilio du coup qui devrait arriver.
Très, très, très bonne arrivée du côté.
Bon, je vais pas dire jusqu'à très. Bon, alors, il joue à la Juve. Moi, je vais jamais dire du mal d'un joueur de la Juve, mais Deschilio, alors, c'est un joueur qui a un profil intéressant. Parce que
il peut
jouer à droite et à gauche, ça c'est bien. Il a un bon niveau, pour moi c'est du niveau équivalent à Dubois.
Alors, oui, mais
la seule différence c'est qu'il est blessé 6 mois sur 12.
Non, mais justement, donc, pour l'OL qui n'a pas de latéraux, excuse-moi.
Oui.
Je parle pas forcément pour le niveau, je parle pour l'équipe de l'OL aujourd'hui. Je trouve que c'est une bonne pioche de prendre
C'est une bonne pioche.
Justement, du côté de l'OL, ça y est. Hein. Juninho vient d'ouvrir la porte finalement à Depay. Il a dit qu'il pouvait partir.
Non, mais
à
ça
tout
suffit,
moment,
quoi.
C'est n'importe quoi.
Ça hein, suffit. Soit tu annonces qu'il reste, soit tu annonces
voilà,
que tu
c'est ce partes.
Mais ce double discours à chaque fois, ça me saoule.
Quel grand Juninho.
C'est incroyable. Il faut qu'on parle de Rennes, messieurs.
Ah ouais.
Quel recrutement de Rennes, franchement.
Ah ouais. Mais voilà. Mais tu vois, Rennes a fait ce que Lyon doit faire depuis quelques années maintenant, aller chercher des joueurs à l'étranger. Alors là, ils viennent prendre un petit peu des joueurs un peu de partout, mais c'est cohérent. Ils gardent leur meilleur joueur, Kamavinga. Ils recrutent des joueurs à la fois d'expérience pour la Ligue des Champions et à la fois aussi des joueurs qui sont pas trop vieux, hein, parce que D'Albert, Rugani,
même Daniel Rugani,
c'est bien, c'est cohérent. Le projet Rennais est cohérent. Là, le début de saison est très bon. Toutes les cases sont cochées pour faire une saison honorable. Je l'espère, en Ligue des Champions et en championnat.
Vous savez ce que j'aime, c'est ce que tu dis, parce qu'on a parlé la semaine dernière, on disait « Ah, Rennes, c'est faible derrière. Qui c'est qui recrute ?» Daniel Rugani, défenseur central, et D'Albert, latéral. Donc, ils ont tout compris. Je suis d'accord avec toi, ils ont tout compris. Et je pense que ça va leur donner de la profondeur de banc et peut-être qu'il va leur permettre tant de jouer de la Ligue des Champions que continuer à jouer les premiers rôles dans le championnat.
C'est à l'image de la famille Pinot, de toute façon. C'est à l'image de cette famille, c'est carré, c'est propre. Là, j'ai vu, ils viennent de mettre 20 patates sur un joueur de 18 ans. T'as pas l'impression que ce club-là, quand il sort de l'argent, c'est millimétré. C'est un peu comme ce que pouvait faire Ocampos avant. T'as l'impression que
Severino Lucas,
sort...
ça leur a servi de leçon. 40 matchs, 3 buts.
C'est pas faux.
Non, mais... À l'époque, ça avait coûté 20 millions d'euros. Je crois que 20 millions d'euros, c'était énorme.
À l'époque, c'est 60.
Ouais, mais ça. Là, jusqu'à maintenant, ils se trompent pas. Et Rennes est hyper intéressant dans son recrutement. C'est carré. Ça a rien à voir avec l'OM, où ils sortent des joueurs de 30 ans qui sortent d'un club du fond du Brésil ou de l'Argentine. Hashtag Benedetto. Ça change, c'est quand même vachement plaisant.
Et qu'est-ce qui se passe au Bayern, pardon, les enfants?
Écoutez,
je vois le recrutement du Bayern.
Non, mais je pense que c'est un pari. C'est un pari rigolo qui a voulu lancer. C'est pas possible. Ça y est, Bounassar vient d'arriver à Munich, donc c'est réel. Hein.
Super.
Faut m'expliquer, Bounassar.
Le pauvre Kimmich, il va plus jouer.
Non, mais sérieux. Bounassar, c'est un bon latéral.
Mais c'est un bon latéral de Ligue 1, c'est pas un bon latéral de...
Choupo-Moting, je suis partagé, parce que c'est un homme de vestiaire, c'est un Allemand, il a la binationalité. C'est peut-être quelqu'un qui peut apporter quelque chose dans le vestiaire, mais sur le terrain, il va pas apporter.
Oui.
Non, mais voilà, je suis assez
oui, mais pour jouer contre Kaiserslautern et le Hertha Berlin, c'est bon.
Bounassar, Choupo-Moting, c'est une sacrée doublette.
Mais Bounassar, mais sérieux.
Après, on peut peut-être avoir de bonnes surprises.
Ouais, ou alors le Bayern se dit, bon, on est peut-être trop fort, il faut qu'on recrute un petit peu des joueurs moyens, histoire de rééquilibrer.
Mais bon, Bounassar vient peut-être remplacer le futur départ d'Hernandez, tu vois. Donc
oui, c'est ça.
Ils veulent augmenter la qualité du groupe bavarois. En attendant, Bayern...
Ils font revenir Douglas Costa aussi.
Bah, oui.
Je sais pas si c'est un bon retour.
Bon, après, la Juve voulait absolument le vendre, donc il le prête finalement. Lui, il connaît le club. Il va faire le nombre derrière Gnabry et Coman. C'est pas incohérent.
Non, mais oui, mais c'est pas lui qui va faire la différence.
Non, mais de toute façon, on l'appelle pas pour ça, parce qu'il y a des titulaires qui
vient étoffer le groupe.
Ça fonctionne déjà. À la limite, tu vois, un Douglas Costa qui viendrait à Paris, sympa.
Là, je suis d'accord.
Derrière Neymar, Di Maria, Mbappé, tu as une possibilité, tu fais rentrer un Douglas Costa. Oh,
ça
pèse. C'est pas n'importe
quoi.
En un quart d'heure, 20 minutes, il peut te faire deux ou trois dribbles, deux ou trois centres, il peut tirer deux ou trois corners. Ça aurait été intéressant.
Messieurs, un retour, mais pas un retour dans un club qu'il a déjà joué, un retour du côté du Parc des Princes de Edinson Cavani, qui a enfin trouvé un club à Manchester United. Mon Pierrot, toi, supporter
parisien. Est-ce qu'il a fait demi-tour hier quand il a vu le match?
Écoute, c'est vrai que je pense qu'en ce moment, ils ont besoin d'un attaquant, ça s'est vu hier.
Ça s'est vu surtout qu'ils n'avaient pas de défense. Hein. Oui, je suis désolé,
C'était ironique, Mimi. C'était ironique. Bien sûr que tu as besoin de Cavani, c'est certain. Mais Cavani, c'est le premier défenseur de chaque équipe.
Vous avez vu la défense alignée par le Manchester.
Mais 6 ça va pas du tout. À 1. Mais est-ce que vous imaginez?
Mais quand je vois la défense, je me dis, mais comment ils peuvent faire la saison avec Van Bissaka, McGuire,
Dillard. Mais tu viens de citer 150 millions d'euros d'investissement.
Bailly.
Mais bien sûr, gros. Bailly, ils ont pas lancé 150.
Luke Shaw.
Regarde, quand tu regardes l'alignement de la défense, là, sur les 4 défenseurs de Manchester United, il y a quasiment 180 millions d'euros d'investissement.
47
millions
d'euros.
Ils ont certainement la défense la plus chère de première
ligue. Il y a Manchester City aussi.
Ouais,
attention,
c'est
parce que Stone, 50 millions, Otamendi, 40.
C'est un scandale.
Après, Tottenham commence à être vraiment costaud quand même, messieurs.
Ouais, doucement. Ouais.
Harry Kane, Son, Lamela, ça commence.
Mais on l'a toujours dit, en attaque, c'est exceptionnel.
Non,
après le reste.
Oui, mais le problème, c'est Mourinho. Alors là, pour le coup, c'est peut-être criant de voir Manchester perdre contre le Tottenham de Mourinho, qui en plus, Mourinho, qui est un entraîneur qui n'est pas reconnu pour mettre des tollés tous les week-ends, quoi. Donc, il vient de faire deux fois de suite. Bon, et en même temps, on l'a dit, il a une attaque de feu. Parce que Son, Kane, Lamela, c'est pas mal.
Le problème, c'est la rampe de lancement pour Tottenham.
Messieurs, on en parle, on a basculé là, hors mercato. On en parle aussi de Aston Villa qui explose Liverpool 7-2.
Ouais.
Comment vous expliquez ce mauvais début de saison
incroyable
de Liverpool?
Ce week-end, c'était incroyable.
Bah ouais, il s'est passé deux choses de fou, mais c'est là qu'on voit que...
Attends, Leicester qui perd 3-0 contre West Ham aussi, c'était quand même
ouais,
énorme.
Oui, mais c'est le Premier League. La première ligue, c'est des clubs qui ont envie de jouer pour gagner.
Everton, encore voilà, qui confirme. Hein,
ouais,
Carlo Ancelotti, c'est exceptionnel.
Et puis,
mais t'as vu les trois premiers quand même de première ligue? Everton, Aston Villa,
Leicester.
Ouais. Voilà. Mais c'est fantastique.
Manchester, 16e.
Est-ce que vous imaginez
Manchester City, 14e.
Non, mais c'est incroyable ce qui se passe en Angleterre.
Non, mais ça se confirme quasiment dans tous les championnats. Moi, je remarque, l'Italie vient de démarrer, donc on ne va pas non plus prendre cette base. Mais je constate que dans les principaux championnats, les gros ont quand même du mal à commencer. On voit en France, le PSG n'est pas encore devant. Marseille et Lyon font pitié. Lille, c'est tout juste bien. Derrière, t'as en Angleterre, les trois premiers, on n'aurait pas du tout dit que ce serait ceux-là qui seraient premiers au bout de 6 journées ou 7 journées. Donc, c'est sûr que c'est surprenant, mais c'est la première ligue et la preuve que le championnat aussi, si tu veux faire progresser ton championnat, tu dois avoir des équipes qui ont un minimum d'ambition sur les matchs. Et c'est le cas là-bas.
Mais
donc
il y a quand même quelque chose là il y a une question qu'il faut se poser. Quand tu vois quand même les montants qui ont été investis en Première Ligue, et je pense qu'on pourrait faire une émission là-dessus, avec l'arrivée aussi de Fofana, 45 millions, 18 ans. En fait, la première ligue devient la risée, je parle au niveau défensif, hein, devient la risée du monde.
C'est 40 buts par journée.
Oui, mais ça, c'est quand même assez incroyable, excuse-moi.
Non, mais la première ligue, ça a toujours été, je suis désolé, ça a toujours été, la première ligue n'a jamais été le championnat des défenseurs. Ouais. On a eu peut-être un poil de mieux quand Mourinho est arrivé, qu'il a commencé à jouer avec son Chelsea, avec Carvalho, Terry, que Manchester avait Vidic, Ferdinand. Ouais, mais derrière, après... ça a jamais été un championnat qui était réputé pour former et pour avoir les meilleurs défenseurs du monde.
Par contre, ils étaient réputés pour avoir les meilleurs gardiens.
Non, c'est pas vrai.
Bah, excuse-moi, ces dernières années, Courtois.
Oui, pour Vidal.
Oui, récemment. Alors, récemment. Ouais. Récemment.
Oui, sinon, je te parle de ces dernières années. Hein, récemment. Je te parle pas de ces dernières années. Ces dernières années.
Oui, Courtois, Alisson, De Gea. Oui, oui.
Je comprends pas, c'est quand tu vois les montants investis et les branlées qui se prennent au niveau offensif. Moi, la première ligue, il y a de très beaux attaquants, mais c'est pas non plus exceptionnel. Il y a des beaux attaquants dans chaque championnat.
Je suis pas sûr qu'il y a.
Il n'y a pas forcément de meilleurs attaquants. L'Inter de Milan avec Lukaku, quand je vois la Juventus avec Cristiano, quand je vois Barcelone avec Messi, avec Griezmann, quand je vois le PSG avec Neymar, avec Mbappé, je veux dire, aucun championnat n'a à rougir par rapport
Müller,
à la Première Ligue. Par contre, quand tu vois les montants qui sont investis, personne ne peut rivaliser avec la Première Ligue au niveau défensif. Et quand tu vois les branlées qui tombent chaque... Mais là, tu regardes 7-2... Tu verras, je peux mettre une pièce sur la semaine prochaine Liverpool qui va peut-être aller mettre un 5-0 à une autre équipe.
Peut-être.
C'est incroyable. Je suis toujours fasciné. Comme ce week-end, j'ai loupé la première ligue. Quand j'ai regardé le récap ce matin, je suis tombé, je me suis rendormi. Tu vois, j'ai fait un malaise.
Mais si on continue notre tour d'Europe, justement, en Italie, qu'est-ce qui s'est passé, mon Kevin, toi qui es supporter de la Juve, avec Naples? Je trouve que c'est lamentable.
Alors, il faut parler du contexte. Il y a eu un contexte sanitaire qu'on connaît tous.
Tout le monde est touché.
Tout le monde est touché. La FIFA a décidé, l'UEFA même, a décidé de mettre des règles en place qui disent tant que l'équipe peut proposer 13 joueurs et qu'il n'y a pas plus de 10 cas, staff inclus, de cas positifs au Covid dans une équipe, on joue le match. C'est la règle de l'UEFA, qui est appuyé par toutes les ligues européennes. Hein. L'Italie en fait partie. Il se passe que la Napoli joue contre le Genoa la semaine dernière. Au moment du match, il y a 2 cas de Covid. Bon, le Napoli met 6-0, je crois, ou 4-0, je ne sais plus. Au Genoa, il n'y a pas match. Et se trouve que dans la semaine qui a suivi, là, donc cette semaine, il y a eu 20 cas au Genoa de cas de Covid. Donc, pas au moment du match, ça s'est fait après. Quand la SL, l'autorité sanitaire locale, donc on parle bien de région, de pas d'Italie en général, c'est la région de la province de Naples. C'est comme si nous en Rhône-Alpes on disait au GF38,
le préfet, ouais,
voilà, vous ne jouez pas. L'ASL dit Naples ne devrait pas se déplacer.
Et ne doit pas
se déplacer. La Ligue dit. Non, la Naples, à ce jour, n'a que 2 cas de Covid. La Juventus avait aussi des cas de Covid, mais essentiellement dans le staff et pas dans les joueurs. Par conséquent, le match doit se jouer, selon les règles qui sont mises en place depuis le départ. Et là, s'ensuit un imbroglio des plus phénoménal, puisque l'ASL n'en démord pas, et derrière, la Ligue continue de dire qu'il faut jouer. La Juve, au milieu, on nous dit de jouer, on va se présenter et puis on va jouer le match. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu fais quoi?
Tu vas sur le terrain.
Ton patron, il te dit, tu vas bosser demain. Même si toi, t'es pas d'accord, tu vas bosser demain, sinon tu prends un avertissement. C'est pareil. Donc voilà. Finalement, ça s'est pas joué. C'est déplorable parce qu'en fait, il faut qu'il y ait...
Est-ce que ça sera reporté?
Je pense que oui, parce que finalement, le ministre de la Santé italien a quand même fait une déclaration hier en disant que le match devait se reporter.
Comme le Genoa Torino d'ailleurs.
La Ligue doit communiquer là-dessus dans le sens où il faut reporter le match, parce que même les autorités italiennes au niveau de la santé n'étaient pas pour que ce match
pour la tenue du match
ait lieu. Voilà. Bon, vous savez tout.
En Italie, messieurs, l'Atalanta Bergame qui continue son
incroyable.
Qui continue offensif. Son petit bonhomme de chemin offensif. 3 matchs, 3 matchs gagnés, 13 buts. Ouais, mais 13 buts en 3 matchs.
Ouais. Mais au bout d'un moment, il faut C'est compliqué d'avoir des équipes, surtout avec le budget de l'Atalanta, d'avoir à la fois des bons attaquants, des bons défenseurs, des bons milieux de terrain, d'avoir une équipe équilibrée, de pouvoir mettre 4-0, 4-0, 4-0, 4-0 tous les matchs. Il y a très peu d'équipes qui en sont capables. Aujourd'hui, ce que fait l'Atalanta à leur niveau avec leur budget, qui, on le rappelle, j'ai un malin plaisir à le rappeler, mais c'est le même budget que Saint-Etienne, arrive à faire, et sans les milliards de médias pro. Hein. Il faut rendre hommage quand même à ce que fait cette équipe, qui montre effectivement que, bah, avec un peu de volonté et un bon entraîneur, ouais, on peut faire des belles choses.
Voilà. Messieurs, j'ai envie qu'on parle d'un autre championnat qui me désespère depuis le début du championnat. Ça fait 5 journées que du côté de l'Espagne, ça joue pas. Il y a des scores qui sont complètement... complètement. Je trouve que c'est complètement un championnat qui est en déclin.
Ah, oui. Tu pourras ça le partager, Kevin, s'il te plaît, parce que on a un réseau avec Kevin sur lequel on a appelé les intellects du foot, et en fait systématiquement il y en a un qui passe son temps à dire que la Liga reste the top championnat juste derrière la Première Ligue, et je n'ai de cesse à parler du terme que tu as utilisé, le déclin de la Liga. C'est simple. Moi, je suis abonné à plein de trucs sur le football. Je n'ai quasiment, depuis le début de la Liga, eu aucun flash info, aucun gros titre sur la Liga. J'ai des pop-up de partout sur le Bayern de Munich, sur la Première Ligue, même sur la Serie A, notamment avec ce qui s'est passé ce week-end, hein, mais sur l'Atalanta, la Liga. Le seul truc que j'ai eu, c'est comme quoi le Real de Madrid avait la chance d'être le Real de Madrid, parce que sinon, ils n'auraient pas gagné 3-2 contre je ne sais plus quelle équipe.
Ce qu'on a
c'est
parlé
le
la
seul
dernière.
Pop-up que j'ai eu en 5 jours sur la Liga. C'est dire à quel point c'est le néant. J'ai juste vu qu'il n'y avait quasiment aucun but.
C'est plat, c'est vide.
Catastrophe.
Bon, il y a quand même Benzema qui vient d'atteindre les 250 buts avec le Real, qui fait partie des 10 meilleurs buteurs de l'histoire.
Non, ouais. Mais bravo à Benzema.
Non, mais je veux dire, c'est une petite actu, mais il faut quand même le dire.
Mais moi, honnêtement, quand vous regardez les clubs de la Liga, on a le Real de Madrid, on a peut-être allez, le FC Barcelone, Séville, mais après, on n'a rien, les gars.
Ouais.
On n'a rien.
C'est vrai.
On n'a rien. Même l'Atlético Madrid, c'est léger.
Bah, c'est aussi 12e, l'Atlético Madrid, là.
Donc,
il en manque un match, même deux.
Mais moi, je suis vraiment, vraiment inquiet, messieurs, pour. Honnêtement, pour ce championnat.
Ouais, mais ça va être un championnat, je pense, bizarre de partout. Mais c'est vrai que la Liga accuse quand même le coup. Et...
Je pense que la Liga voulait vraiment prendre le tournant, avec notamment le Real qui voulait recruter Mbappé cette saison. Je pense que le Covid a mis à mal beaucoup de plans. Real de Madrid et le Barça sont arrivés à un tournant. Les deux voulaient recruter massivement. Et je pense qu'en fait, là, dans leur business plan, je suis certain, je suis convaincu, et je l'ai lu dans plusieurs médias, qu'ils voulaient utiliser la fin de la saison 2019-2020 comme le tournant, en faisant revenir des icônes, des grands joueurs, pour pouvoir repartir la nouvelle décennie. Et ils n'avaient pas prévu, en fait, d'avoir cette zone de creux. Donc là, ils vont avoir une saison hybride où ils vont devoir faire avec les moyens du bord. Et je peux te dire que la Liga va être d'une tristesse, avec un Messi qui va traîner son spleen, là, qui avait fait une déclaration fracassante contre son club, contre son club, sur le départ de Suarez, où il a encensé Suarez, et en disant qu'il n'y avait que le Barça pour traiter un joueur comme il a pu l'être de cette manière-là. Donc, c'est quand même incroyable. Et malgré tout, le Barça ne communique pas derrière. Hein. À l'inverse du PSG, où Tuchel, il dit juste « Oh, j'ai pas encore assez de joueurs pour cette saison. » Bam, Leonardo, la direction, tout le monde lui tombe dessus.
Il a raison,
Messi,
Leonardo.
Il baisse son froc, il pisse sur le club. Et vraiment, c'est littéralement, il pisse sur le club, pour pas dire autre chose et être plus vulgaire. Et le club, il dit rien. Pas de souci. Non, mais c'est incroyable.
Comme on l'a dit à un moment donné, Messi est au-dessus de l'institution.
Non, mais
c'est aussi simple que ça. Messi est au-dessus de l'institution. Bartomeu est certainement une grosse baltringue, excusez-moi.
Non, mais
un
c'est
gros président qui ne sait pas prendre ses coronesses.
Ouais. Et quand, voilà, quand on va refaire les débats 105
ans. Quand est-ce qu'il parle, l'entraîneur? Et l'entraîneur, c'est quoi?
Mais Ronald Koeman, il vient d'arriver.
L'entraîneur, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour parler de Depay.
Qui recrute Depay.
Et d'ailleurs, en parlant de 30
millions d'euros.
Depay, j'ai vu une actu comme quoi ce matin, il était, ça y est, en partance, 20 millions d'euros hors bonus.
Oui.
Ça avance ou pas?
Pour l'instant, non.
C'est carrément mal vendu, ça.
Bah, il reste une année
de
contrat.
Il reste un an de contrat. Et en plus, il a plus envie de jouer.
J'aime bien quand Kevin me dit c'est vrai.
Non, il a plus envie de jouer. Il a plus envie de jouer. Un an de contrat. Il a été blessé. Allez, on zappe.
Ciao.
Messieurs, c'était chaud ce petit tirage de la Ligue des Champions.
Madeline, c'est pas l'heure du quiz. Calme-toi.
Messieurs, je vois le temps avancer. Déjà, je suis dedans. Non, messieurs, le tirage de la Ligue des Champions, on rappelle, le groupe A, Bayern de Munich, Atlético Madrid, Lokomotiv Moscou, RB Salzbourg.
Moscou.
Borsko. C'est le Boskovic.
C'est le vodka.
Lokomotiv Borsko.
Messieurs, Bayern, Bayern Atletico. Pas photo.
Pas photo.
On est d'accord.
Ouais.
Allez, deuxième poule, le groupe B, Real de Madrid, l'Inter, le Borussia Mönchengladbach et le Shakhtar Donetsk.
Bah, c'est bien, ça va être bien ça.
Tu viens de donner le classement final. C'est voilà.
mais j'ai...
Ah, non, pas peut-être... tout parce qu'on non, va être appelé par Betty qui vont avoir des
non,
problèmes.
Peut-être le Shakhtar pour moi qui sera en, en Ligue Europa.
Non, mais c'est des équipes qui sont. C'est jamais facile d'aller jouer en Russie. Donc,
je pense que ça sera pas simple du côté du Shakhtar.
Non.
Le groupe C, là par contre, c'est la folie. L'Olympique de Marseille, l'Olympiakos, le FC Porto, Manchester
pour
City.
Pour moi, c'est ouvert. L'OM, en étant chapeau 4, a eu un super tirage.
C'est vrai. Oh.
Alors, un super tirage, Manchester City, Porto, l'Olympiakos, c'est jamais facile d'aller jouer là-bas.
Oui, mais c'est au niveau de Marseille. Enfin, je...
Non, pour mais ils auraient pu avoir pire.
Ça peut passer.
Ils auraient pu avoir pire. Ils sont peut-être du même niveau peut-être que Porto. Et encore, ça reste à démontrer au vu de ce qu'ils montrent au début du championnat. Là.
Moi, je pense que ça peut passer.
L'Olympiakos, ils doivent gagner. Même si c'est pas facile, au bout d'un moment, ils doivent gagner.
Je vais mettre voilà. Ouais, voilà, c'est ça.
Valbuena.
Pour un chat. Hey,
messieurs, Valbuena du retour du côté du
Valbuena, tu sais même pas qui joue encore. Non, mais par contre, tu vois, je vais aller le plus loin. L'OM peut passer en 8e et doit au pire aller en Ligue Europa. Par contre,
on est d'accord. Messieurs, le groupe D, l'Ajax Amsterdam, l'Atalanta, Liverpool et le FC Disneyland.
Eh ben.
C'est vrai. Disneyland.
Avec
le capitaine Crochet.
Comme ça, je vais rire à chaque fois que je vais regarder le groupe D en Ligue
des Champions. Le FC Midtjylland. Je vous le dis, je ne sais pas d'où vient ce club.
Non,
c'est un club de danois. Hein.
C'est un club danois, exactement.
Melvin, il vient de l'Oise.
Chambly.
Non mais non, par contre, ça va être le groupe
tout ce
du,
qu'on connaît
le
pas,
groupe du beau
l'Oise.
Jeu. Le groupe du beau jeu.
Atalanta,
dans la Disneyland, mais Liverpool, Atalanta, Ajax.
C'est de voir l'Atalanta, Liverpool.
Ouais, c'est bien.
Ça peut être très très bon.
Ça va être bien.
Messieurs, le groupe E avec Rennes, Chelsea, Séville et Krasnodar.
Pareil, les gars.
C'est faisable.
Franchement,
Séville, Rennes, ça peut jouer.
Moi, les gars, quand je regarde ce groupe E, pour moi,
ils doivent gagner. Ils doivent finir troisième.
Pour moi, quand je regarde le groupe E, pour moi, c'est un groupe de Ligue Europa. Je vais peut-être loin.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais pour moi, c'est un groupe.
Je suis d'accord avec toi. Ouais, ça peut être un.
Parce que Chelsea va pas super bien quand même.
Chelsea va pas bien, mais a recruté énormément. A de grosses ambitions.
Ouais, à voir.
Il y a Olivier Giroud, quoi.
Il joue pas. Groupe F, pour moi, c'est un des groupes le plus faibles, excusez-moi.
Ouais,
mais avec Dortmund, Lazio, Bruges et le Zénith Saint-Pétersbourg.
C'est vrai. Mais d'un côté, ça va être un groupe. C'est pareil.
Disputé. Ça va être très disputé.
C'est presque un groupe de Ligue Europa aussi. À part, t'enlèves Dortmund, peut-être. Mais bon, écoute,
Dortmund,
ça va être.
Dortmund qui s'est incliné, là, 3-2, c'est ça en finale contre.
Ça peut être disputé. Le groupe G, messieurs, Barcelone, la Juve, le Dynamo Kiev et le FC Bière.
Voilà.
Bon,
pour moi, ça va passer pour les deux plus gros.
Non, mais oui. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est le retour du duel Messi-Ronaldo.
Ouais,
c'est
vrai. Ça
va être plaisant. Par contre, depuis quand il y a une équipe de Hongrie qui joue en Ligue des Champions? Il faudra m'expliquer comment sont calculés les points UEFA. Parce que...
et nous, en Ligue 1, ils nous laissent deux clubs ennemis.
Non, mais c'est ça. Le groupe H, moi, je trouve difficile le groupe du PSG, Manchester United.
Je vais peut-être me faire des ennemis. Je vais peut-être faire rouler à Kevin, mais pour moi, c'est le groupe le plus relevé.
Non. Difficile.
Non.
Relevé. Non,
Manchester
ils montrent pas rien.
Non, ils ne font pas peur parce qu'ils font de la merde. Mais Manchester
pas dire
United
plus relevé.
Et dans le classement, je l'ai déjà dit, dans le classement post-Covid en première ligue, Manchester United finit premier l'année dernière.
Et là, ils viennent de prendre la roue.
Ils ont pas de finale de la Ligue des Champions.
Ils ont pas de chance. Mais attends, mais Mbappé, Maguire, t'as hâte de le voir ce duel Mbappé, Maguire.
Il y a 50 millions d'écart.
Non, c'est pas le plus relevé. Istanbul, ils ont 45 clubs dans la ville d'Istanbul. C'est le dernier, celui-là. Non, mais c'est vrai, à un moment donné. C'est un groupe qui va pas être simple. Maintenant, c'est pas pour moi le plus relevé.
À voir.
Excuse-moi, mon Pierrot. Hein. Messieurs, un pronostic pour la Ligue des Champions?
Une victoire finale, là? Non, trop tard.
On pourra remettre le podcast, il faut quand même donner quelque chose.
Franchement, mais regarde.
Non, par contre, on peut lancer l'idée qui a émergé de nous. ce week-end.
De nous, j'aime bien.
De nous. Qui a émergé de nous.
De nous. Les fameux pronostics de la team Aircast Food Time Show.
Complètement.
Hein, avec une petite compétition. Donc, vu que les matchs sont le mardi et le mercredi, eh ben, le lundi soir, on vous donnera nos pronos. On fera une petite Exactement. Compétition entre nous. Ça viendra remplacer le quiz, hein, parce que j'en ai un petit peu marre de gagner. Donc, c'est vrai. C'est vrai.
Non, mais allez.
Voilà.
On veut bien, allez.
Vas-y. Allez.
Il parle, il a un gosse, il a déjà 17 ans, il va tout seul à l'école. Nous, on est avec nos bambins, là, on
ouais,
dort pas la
c'est
nuit.
Ça,
le
c'est
mec,
ça,
il a que
ouais.
ça à faire de regarder le foot, quoi. Non, mais c'est une blague. Mais vite, dis quelque chose. Il s'endort,
mais
vite.
Non, mais il désespère. À un moment donné, tu peux plus.
Bon, c'est Melvin qui s'endort alors que c'est Pierre qui dormait la semaine dernière.
Tu peux plus, quoi.
Auditeur, parlez pas trop fort, s'il vous plaît. C'est l'ordre.
C'est le club d'anglais. Hey, Pierre. Chef. Sheffield. Ah, gagné. Ouais. Pierre, ah, toi.
Pierre Nordwick. Non, Pierre, on a dit rouge et, noir.
Le FC Disneyland.
Le FC Disneyland. Messieurs, allez, on passe sur notre rubik. Ligue 1. Ligue 1 avec encore énormément de buts dans cette sixième journée de Ligue 1. Notamment le premier match qu'a eu où le PSG s'est imposé 6-1 face à Angers.
Ouais.
Pas grand-chose à dire, messieurs.
Non.
Voilà, il y a eu...
Non, mais par contre, scandaleux. Scandaleux le discours de Moulin après le match. Mode...
Quand il demande en plein match de passer...
Non, c'est le top du scandale quand même. Parce que tu es en train de me piner à sec. mais est-ce que je peux avoir ton maillot. C'est un peu comme si un mec te pinait, hein, pour être poli, et tu lui dis est-ce que tu pourras me laisser la capote après s'il te plaît. Non mais c'est quand même n'importe quoi. Fais-le à l'abri des regards après le match. Fais le pas devant le caméra de la France entière et du monde entier. Enfin, je veux dire, c'est quand même n'importe quoi. Et derrière, la conférence de presse est lunaire. Non, mais on a bien joué. Ah bon, d'accord. Non, bon, t'as pris 6 buts, mais bon. Non, mais je suis content de ce qu'ils ont fait. Hein. Bon, après, ils sont meilleurs. Mais voilà. Ah
il
bon,
peut,
d'accord.
Okay. Il peut pas dire ça.
Pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu le match, on fait une rapide synthèse. Le but de Florenzi, il mérite d'être vu et revu. Donc, si vous avez les moyens d'aller regarder le replay, il est vraiment exceptionnel. Petit lob, frappe extérieure qui part dans la lucarne opposée. Et puis après, dans les enseignements, c'est un Draxler qui était en partance, qui ressort de jeune saison.
Il a pas été si mauvais.
Et qui fait des bons matchs, là, franchement, en termes de conservation.
C'est pas un mauvais joueur.
En fait, il apporte dans ce milieu de terrain une aisance technique que seul Verratti a. Donc, au niveau défensif, on ne peut pas lui demander la même chose. Mais écoute, un Draxler qui, maintenant, quand je le vois sur la feuille de match, je grince moins des dents. Donc, c'est plaisant.
À voir.
Bon, et eh bien écoutez, messieurs, à voir hein, pour le. Pour
je
le
me demande, tu sais, je me demande si Leonardo n'a pas demandé à Tuchel de le mettre en avant pour le faire jouer, pour que le Zénith s'active ou que des clubs de première ligue jouent aussi.
Peut-être.
Je pense que la fin du mercato nous donnera aussi une idée un peu plus claire, surtout avec l'arrivée de Danilo. Sur le 11 type du Paris Saint-Germain, mais malheureusement, je pense qu'avec le retour de Di Maria, Draxler, il va devoir se reposer des questions sur là où il a envie d'aller vivre avec sa femme.
C'est sûr.
Messieurs, Lens qui continue son bon début de saison hein, en battant Saint-Etienne 2-0, ils font plaisir, les Lens.
Ouais, ça fait plaisir. Je veux partager une anecdote quand même qui révèle quand même pas mal de choses qui m'énervent quand même chez les supporters de foot. Hier, dans notre conversation Les Intellects du foot, il y a un supporter lillois qui poste la photo du classement où Lille est légèrement devant, à un point d'écart, en disant je pose ça là, en mode ça fait toujours plaisir d'être devant les Lensois. Mais enfin, on rappelle les différences de budget, on rappelle que Lens était en Ligue 2 l'année dernière.
Et ça fait longtemps qu'ils
y étaient. Et que ça fait longtemps qu'ils y étaient, et que personne n'aurait dit qu'après 6 journées, Lens aurait gagné contre le PSG, aurait fait des bons résultats en ayant joué aussi contre Bordeaux, contre Marseille, je crois qu'ils ont joué aussi, non ? Pas encore ? Non, contre Saint-Etienne. Enfin, je veux dire, ils ont joué aussi contre Rennes. Ils ont quand même affronté quand même des grosses cylindrées de notre championnat. Ils sont quand même là. Je suis désolé, il n'y a pas d'exploit pour Lille d'être à un point devant le Lens qu'il faut. Je suis désolé. Au bout d'un moment, on peut pas. Est-ce qu'on peut essayer, quand on parle de foot, d'essayer d'être un minimum objectif quand on parle de foot?
C'est
compliqué,
passion,
mais ça sert à quoi, franchement? Ça m'énerve. Moi, je suis pas toujours en train de poster la photo du championnat où la Juve elle est devant l'Inter ou le Torino. C'est nul, quoi.
Je trouve ça nul. C'est bas.
Je vous valorise parce que vous valorisez l'attaque et vous valorisez l'équipe qui gagne. Par contre, il faut quand même qu'on s'arrête ne serait-ce qu'une minute sur la prestation de Saint-Etienne qui est insipide, pour pas utiliser un autre terme.
Ouais.
Saint-Etienne, les gars, j'ai vu le résumé, c'est deux frappes, une cadrée en 90 minutes.
Mais ils se sont perdus complètement, comment c'est possible?
Et Puel qui arrive à la fin du match en disant que l'arbitrage a été compliqué. Mon gars, s'il te plaît.
Ouais, bon, collège s'il te plaît.
Mais c'est le problème des entraîneurs de France.
Mais quand tu frappes une fois dans le cadre sur 90 minutes.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
On dirait Toulouse qui l'année dernière demandait de rester en Ligue 1.
Voilà.
Mais purée.
Mais
et tu sais, il y a un joueur qui symbolise tout ça à Saint-Etienne, c'est Cazeri. Cazeri qui est rentré à la fin, qui est en partance. Ouais. Il n'y a pas de numéro 9. En fait, c'est un peu, on va parler du FC Nantes après. Pour moi, Saint-Etienne et le FC Nantes. Saint-Etienne, cette année, me fait penser au FC Nantes des années précédentes avec 100% d'efficacité où le FC Nantes avait fait 5 victoires consécutives par un but d'écart. Et Saint-Etienne, j'ai l'impression que va être sur ce modèle. Ça a été un Saint-Etienne hyper efficace qui s'est classé, qui a fait un bon départ. Et là, maintenant, bah, il commence à se regarder en chien de faïence. Fofana est parti. Alors, c'est un défenseur, les gars. Donc, il va falloir arrêter de se regarder, le nombril. Et puis, il va falloir y aller, quoi.
Oui.
Il n'y a pas de Debuchy, il n'y a pas Fofana. Une frappe cadrée.
Ouais, voilà.
Messieurs, non, autre match.
Catastrophe.
Nice qui s'est imposé face à Nantes 2-1. Les Niçois sans trop convaincre, mais qui ont fait le boulot.
Un peu à l'image de leur début de saison.
Mais ils ont fait
parce
le boulot.
Parce que Nantes, c'était pas, ça, c'est, comme l'avait dit Pierre assez souvent depuis le début du championnat, c'est pas très costaud. Hein.
Giroto prend un rouge au bout de 3 minutes de jeu.
En plus.
Il n'y avait pas photo. Hein, mais...
et par contre, c'est un tout petit Nice. Hein.
C'est pour ça que je te dis sans convaincre, ça gagne, ça suffit.
Moi, j'ai regardé ce match-là, je l'ai regardé, et franchement, un petit Nice. C'est encore un manque d'automatisme.
Ils tombent contre qui en Ligue Europa, Nice? Il y a eu le tirage.
Ouais, c'est compliqué.
Ligue Europa.
C'est compliqué.
Vas-y, cherche l'info.
Ouais, je cherche l'info, t'inquiète pas.
Je me rappelle plus les quatre noms, mais c'est les trois noms qui les accompagnent.
Ouais, mais je trouve que c'est compliqué. Alors, Leverkusen, Slavia Prague et l'Apoel Beersheba.
Prague.
Pourquoi tu rigoles?
On découvre toujours des nouveaux clubs.
L'Apoel Beersheba.
Bah franchement, Leverkusen est au-dessus de Nice, c'est sûr.
Oui.
Et Prague,
après, ça peut être difficile.
Prague sera aussi au-dessus de Nice.
Mais tout est difficile pour nos clubs de Ligue 1 en Ligue Europa. De toute façon, quand je vois encore que Saint-Etienne l'année dernière est allé se casser les dents contre je sais plus qui, là, je n'arrive même plus
à venir. Et Reims qui a perdu contre le FC Spirou.
Ouais.
Faut que t'arrêtes de mettre des Disney à tes enfants.
Ah ouais, j'ai une fille qui vient de naître. Hein, il faut bien qu'à un moment donné.
À deux mois, il l'endort avec les Disney.
Messieurs, la surprise de cette sixième journée, c'est Nîmes qui va s'imposer à Montpellier dans le derby.
C'est vrai. Ouais. Et Montpellier qui me déçoit. Parce que j'avais
été un petit peu
dithyrambique sur leur début de saison. Et là, bon, même si Nîmes, c'est jamais facile.
Ouais,
mais bon.
Ça a été un derby méditerranéen, ça a été un match au couteau. Hein. Il y a eu de l'engagement, ça a été un match d'homme, ça n'a pas été un match de spectacle. C'est marrant que tu le cites comme. Je pensais que quand tu as dit la surprise de cette journée, je pensais que tu allais parler de Bordeaux.
J'allais parler de Bordeaux, mais bon, c'est contre Dijon, quoi.
Ils n'ont pas fait exprès.
Non, mais c'est contre Dijon.
Ils n'ont pas fait exprès.
Ouais, bon, on passe du néant quand même à un 3-0,
oui,
quoi.
Allez. On va dire qu'il
y a Brest 1-0 contre Monaco.
Brest,
il y en a quand même eu 2-3.
Brest qui gagne 1-0 contre Monaco, c'est vrai que c'est une petite surprise, d'autant plus qu'ils ouvrent le score à la 8e minute. Ils ont tenu tout le match.
C'est vrai.
Face à normalement Monaco qui a quand même des gros attaquants, hein, avec Volant, Ben Yedder, Martins.
Ouais, après Monaco qui passe de la Côte d'Azur 26 degrés à la Tempête Alex aussi.
Ouais,
c'est pas forcément très compliqué.
Enfin, quoique la Côte d'Azur, ces derniers jours, vous avez vu, c'est quand même dramatique ce qui s'est passé.
Ouais, c'est vrai.
Paix aux âmes.
Ouais, ça n'a pas été simple, mais bon. Strasbourg qui perd 3-0 face à Lille. Excusez-moi, je le répète encore. Lille, pour moi, fait partie des favoris de ce championnat.
Ouais,
favori de pour finir où?
Deuxième, troisième.
Ouais, bah
ah oui, d'accord.
Non, ouais.
J'adore cette phrase. Favori pour terminer troisième.
Mais non, mais oui, mais il n'y a pas de championnat avec le Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de championnat avec le Paris Saint-Germain, Pierre. Tu le sais.
Oui.
Bah,
c'est la vérité.
Excuse-moi, j'espère que Rennes donnera un peu de relief à ce championnat.
Mais j'espère aussi.
On ne dit pas qu'on souhaite qu'il n'y ait pas de championnat. On souhaite qu'il y ait un championnat relevé avec des équipes qui jouent la gagne.
Exactement.
Voilà. Bah, pour moi, Monaco a l'effectif.
Monaco,
Marseille
avait
l'effectif pour embêter. Alors,
non,
peut-être pas de manière durable. Et Rennes, pour moi, a l'effectif. Pour moi, on a un quatuor qui est capable de titiller le PSG. Quoi.
Ils n'ont pas la profondeur. Messieurs, un autre match, Metz qui s'est imposé 3-1 du côté de Lorient, Rennes 2-2 face à Reims, une mi-temps chacun, j'ai vu le match, c'était incroyable,
ouais,
Rennes
ouais.
qui s'est baladé la première, Reims qui a fait une deuxième mi-temps phénoménale, c'est un petit coup d'arrêt pour les Rennais, quand même.
C'est vrai,
pour les Rennais, pardon.
Les Rennais.
Et le match de hier soir.
Vous l'avez regardé les gars, Lyon-Marseille ou pas?
Ouais.
Ouais.
J'ai suivi de loin.
Écoute, moi, je l'ai regardé en intégralité, j'ai eu énormément de mal à regarder ce match, nul. Il est nul ce match.
Bon, en fait, j'ai envie de dire que bon, il y a deux choses. Déjà, j'ai un petit coup de gueule rapide à dire sur l'arbitrage. Franchement, je pense qu'en 14 émissions, on m'a pas entendu parler une fois de l'arbitrage. Mais j'en ai marre de cette VAR qui,
Moi, le tacle de Payet, je le vois. Payet, il est statique, il bouge pas, il est ancré dans le sol. Il y a pas rouge.
Mais si, il y a rouge.
Mais non, il y a pas rouge.
Arrête, il y a rouge.
Mais putain, il est statique.
Mais il est statique.
Il est statique.
Mais il peut lui casser la cheville.
Mais
il n'y a pas photo.
Mais
y a
non,
rouge.
Je suis pas, d'accord. Je suis pas d'accord. Dubois, il est à l'arrêt. Il passe. Non, mais il essaie d'attraper le ballon.
J'aimerais
il a pas le pied à 90 degrés. Il a un pied à 45.
Non mais
Dubois vient s'enfaler sur son
pied. Vous entendez là sur le débat maintenant on va parler de l'angle des pieds, machin.
Non, je suis pas d'accord.
En plus, je suis pas d'accord avec toi.
Il y a jaune.
Non,
je suis pas d'accord avec toi.
Attends, Heureusement, alors on va quand même pas se dire. C'est quoi Qu'est-ce que tu fais?
Bah, il nous met de la musique.
J'ai envie, il faut se faire un kiff quand même.
Non, mais... ce que je veux dire, c'est que.
Mais les gars, il y a rouge.
Non, mais parce que.
Non, il y a rouge. Pour moi, il y a rouge.
Oui, il y a rouge.
Non, mais.
Oui, il y a rouge.
Incroyable.
Oui, il y a rouge. Pourquoi?
Si
parce
tu regardes
que...
une photo.
Mais heureusement, que Payet, tu n'as pas envie de faire. Heureusement
et tu sais ce que j'ai apprécié. Je vais le dire quand même.
Vas-y.
Parce que je vais vous dire ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Oh là là, putain, c'est une femme qui arbitre le. C'est Stéphanie. D'accord. Elle a fait un super match, Stéphanie Frappard. Et sur le rouge, elle prend la décision d'aller voir la caméra et d'aller voir la faute, ce qui ne se fait plus depuis un bon moment.
Elle
là,
se décide très rapidement et par contre sur le reste, elle a fait un très beau match et même.
Non mais attends,
Garcia...
on va parler du rouge. Deux minutes là. Le rouge, je suis désolé. Il y a rouge pas parce que Payet fait exprès de faire mal. Encore heureux que sur 95% des fautes, on s'appelle pas tous Yannick Cahuzac, on n'est pas là pour découper des jambes. Mais c'est un jeu dangereux. Tu préserves l'intégrité des joueurs et donc tu dois sanctionner même si c'est pas fait exprès, même si.
Mais je te parle même pas de ça.
Il se rate dans son geste.
Tu cites ça, je l'ai dit hier dans la conversation. Mais là, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est un jeu statique. Payet, il n'arrive pas d'une course de 10 mètres, pied décollé, voilà, il loupe le ballon.
Mais oui, mais c'est
Payet,
dangereux. Il est
statique.
En retard.
Les deux, ils sont à l'arrêt. Léo Dubois tente un crochet extérieur en la prenant sur l'extérieur du pied droit pour tenter de déborder Payet sur la droite. Payet s'y attend pas. Il lève juste le pied et le tibia de Dubois vient s'empaler sur le pied de Payet. Et là, forcément, si tu fais un arrêt sur image, nos auditeurs, ils regardent la photo au moment où Payet a le crampon sur le tibia de Dubois. Bien sûr, tu dis rouge. Mais à vitesse réelle, les gars, il n'y a pas rouge. Il y a pas rouge les gars.
OK.
Mais attends, la VAR c'est le but c'est que ça soit pas à vitesse réelle justement.
Mmh. Oh là là, bon d'accord.
T'es pas d'accord?
Non, je suis pas
bon,
d'accord.
Bon, faut qu'on avance, on a pas réussi à prendre le Zlatan Ibrahimovic de Grenoble.
Ouais, mais bientôt on va l'avoir. Attends, tranquillement, regarde.
Il nous reste un quart d'heure, voilà. Il faut qu'on fasse le quiz.
On va faire le quiz. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce match aussi.
Oui, oui, oui.
Messieurs, c'est très inquiétant pour la Ligue 1,
mais
et
oui,
pour ces
oui,
deux équipes.
Oui.
Moi, je suis pas. Alors, je nuance un peu. Je suis plus inquiet pour Marseille que pour Lyon. Lyon a développé du jeu. Lyon a frappé 24 fois au but. Alors, Lyon a manqué cruellement de réalisme. Il y a trois poteaux. Excuse-moi. Il y a un but refusé pour hors-jeu. Il y avait quand même matière à avoir quand même. Et le hors-jeu, ça se joue un poil de 1. Hein. Là encore, je vais me m'auto-censurer. Mais excuse-moi.
Non, mais c'est n'importe quoi, c'est hors-jeu.
Du début à la fin. Et Lyon le même match. Lyon repart 4-0. C'est pas volé. Hein. C'est pas volé.
Non, c'est
Lyon
pas volé, mais malheureusement,
a développé
ça s'est
du
fait.
Jeu. Marseille, c'est le néant. C'est une catastrophe. À l'image du hold-up avec le Paris Saint-Germain, une catastrophe.
En espérant que ça fasse redescendre un petit peu de leur nuage les bien-pensants qui pensent encore que Villas-Boas est un génie alors qu'il a été viré par tout le monde.
Marseille il est expulsé quand, Payet? À la 23, 24 ?
24.
24. Mais franchement, sur les 24 premières minutes, Marseille ne développe rien. Il n'y a pas une seule occasion, hormis celle du but, celle où il marque. Mais franchement, pour le reste, je suis extrêmement inquiet. On parlait de l'Olympique de Marseille qui était beau l'année dernière et qui allait devenir magnifique avec le retour de Thauvin. Bah franchement, le Marseille de l'année dernière, je ne sais pas où il est. Et il est encore pire avec notre Thauvin cette année.
Mais Marseille, ils finissent deuxième l'année dernière aussi parce qu'il y a très peu d'équipes qui, derrière, posent des soucis. Quoi. Lille a mis du temps à imprégner un vrai rythme. Lyon a fait une saison ratée. Rennes était peut-être pas encore aussi bien étoffée en termes d'effectifs que maintenant. Donc c'est pour ça que Marseille a fini deuxième. Mais si Lyon avait été en forme et qu'on avait eu le Lille, pas de l'année dernière, mais d'il y a deux ans, Marseille finissait troisième ou quatrième comme chaque année. Hein.
Par contre, il y a un point qu'on peut mettre en avant pour Marseille et celui qui commentait le match hier l'a dit à juste titre. Marseille fait preuve par contre d'une solidité défensive que j'ai rarement vue à Marseille. Contre le Paris Saint-Germain, bon d'accord, ils verrouillent la maison, hein, c'est loin d'être beau. Mais par contre, il y a une cohésion.
Mais
un
ça veut dire quoi maintenant dès que tu vas jouer contre un adversaire de même niveau ou plus fort que toi, tu vas jouer à 25
ce que
derrière
je veux dire, c'est
ça l'ambition.
Ce que je veux dire, c'est que Marseille, il n'y a pas tout à jeter. Aujourd'hui, Rongier, il s'implique beaucoup trop dans les tâches défensives. On partait, il y avait le Mercato, tu n'en as pas parlé, mais Lopez apparemment serait sur le départ pour la Serie A.
Oui,
je pense qu'il faut faire redescendre Payet d'un cran. Il faut remettre un milieu de terrain qui soit beaucoup plus joueur. Et après, il faut arrêter avec les Benedetto, Germain, Mitroglou. Faut mettre des vrais attaquants, les gars. Oh, moi, ça me... ce club, entre Mitroglou, Benedetto et Germain... Mais tu te dis, mais ils sont payés ou quoi? Tapi, il est encore au club ou pas? C'est quoi ce délire?
C'est vrai que c'est difficile.
Non, mais la vidéo de Ben Gousse avec Deschamps, on pourrait faire la même aujourd'hui avec l'OM. C'est qui, Benedetto? C'est ton cousin? C'est ton fils, quoi?
C'est vrai que c'est pas ça. Messieurs, allez, on va passer à notre page Ligue 2, notre GF38.
Qui continue
sur sa lancée. Et on a...
Là, tu peux mettre Chambes.
Ouais, c'est vrai. Non, mais en plus, je suis très content de le recevoir dans notre émission. On a l'honneur d'avoir l'ancien. Voilà. Alors, ça grésille un petit peu. On va y arriver, c'est le gain, certainement. On a l'honneur d'avoir l'ancien capot des Red Chaos, puisque Guillaume Charvet dit la Suède est avec nous. Mon Guillaume, est-ce que tu m'entends?
Oui, je t'entends impeccable. Bonjour à tous.
Salut Guillaume, comment tu vas déjà?
Bah, ça va, impeccable. Je te remercie. Ça me fait très plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui.
Bonjour le Suédois.
Bonjour Guillaume.
C'est un grand plaisir pour nous. Donc c'est vrai qu'on le rappelle, ancien capot des Red Chaos. Tu t'es retranché maintenant dans une vie familiale, j'ai envie de te dire, du côté de Sarthe. C'est ça, hein?
De la Sarthe.
De la Sarthe, pardon.
Voilà. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ouais, j'ai cherché un peu la tranquillité.
Ça a coûté de l'os.
Et là, mes voisins sont les moutons, les vaches, et puis voilà, donc je suis autour des prés, donc ça change.
Eh ben écoute, j'imagine. Ça fait pas de mal. Mon Guillaume, est-ce que tu continues quand même à vibrer sur le GF38?
Bien sûr.
C'est ton club de cœur.
Ah, bah ça a toujours été, hein, depuis tout petit, déjà, de toute façon. Donc bien entendu, j'ai la chance de pouvoir suivre un petit peu les matchs. Alors des fois à la télé, des fois non, parce qu'avec la vie de famille c'est compliqué. Mais toujours à l'affût des résumés. J'ai les copains qui me tiennent aussi un petit peu au courant des choses. Et puis j'ai la chance de pouvoir avoir connaître encore des gens un peu en interne avec qui j'échange de temps en temps. Et puis donc on reste connecté à la vie du GF38 assez facilement maintenant.
Bon, alors justement, ce début de saison, la Suède, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est un GF38 qui est deuxième, qui face à l'hécatombe de Covid s'impose face à Valenciennes. C'est un début de saison assez énorme.
C'est sûr que honnêtement, je m'attendais pas, moi personnellement, je m'attendais pas à avoir le club, à cette position-là. C'est à la fois une surprise et puis à la fois quand on écoute les gens justement en interne ou qui suivent de très près le club, sont pas forcément non plus étonnés parce qu'il y a l'air d'avoir une certaine cohésion au sein de l'équipe qui est très très bonne. J'ai l'impression que la concurrence est très saine au sein des joueurs. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment créé. Et donc c'est à moitié étonnant en fait. Bon, on est que sur un début de saison aussi, faut pas non plus
s'enflammer, on est d'accord.
Voilà, faut pas non plus s'enflammer, mais moi personnellement, le peu que je vois au niveau du jeu, ça a rien à voir avec les années précédentes.
Je suis d'accord.
Peut-être que certaines personnes diront le contraire, mais voilà, moi je...
Non, moi je suis d'accord. Je trouve que les deux dernières saisons, c'était compliqué. C'était du jeu un petit peu à la française, quoi. C'est-à-dire on essayait d'être solide, d'être costaud, mais on proposait rien. Donc, je trouve que c'est très très positif.
Ouais, non, c'est clair. Après, faut dire ce qui est aussi. J'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui sont arrivés aussi cette année, qui ont un profil complètement différent de ce qu'on avait auparavant. Je pense notamment à l'enfant de la maison, Yori Kravé, qui est revenu, qui est un vrai détonateur et qui a mis à part le fait d'être chauvin et de dire qu'il est la maison et que c'est...
Ah, mais c'est une belle surprise.
Il est très très bon. Moi, c'est pas une surprise pour moi. Moi, personnellement, ce n'est pas une surprise. Et bon, il était sur...
Tu l'attendais à ce niveau-là?
Honnêtement, oui. Parce que... Enfin, moi, personnellement, oui. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. La Bundesliga, même si c'est de la deuxième div, ou même la première division, on peut dire ce qu'on en veut, la première division suisse, hein, il y a quand même des très bons clubs en première division suisse qui jouent la Champions League. Yorick, s'il était arrivé à ce niveau-là, c'est pas pour rien. Et on le voit aujourd'hui, il a acquis une certaine maturité en plus. Donc il a une, il a une facilité dans son jeu. Puis là, il se sent, je pense qu'il se sent bien. Il est chez lui, il est bien entouré. Voilà, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il n'y a qu'à voir ses conférences de presse.
C'est vrai, il est très calme, il est très posé. C'est un régal.
Voilà, donc c'est puis on voit, c'est un détonateur dans le jeu. C'est voilà, c'est le profil qu'on n'avait pas avant, pour ma part en tout cas, ouais. Qui fait énormément de bien. En plus, voilà, l'enfant de la maison, le gars, il connaît le club par cœur. Voilà, donc voilà. Puis en plus avec les anciens qu'il y a déjà auparavant, je pense qu'il y a une certaine assise et les petits plus qui sont venus compléter là, dernièrement. Voilà, c'est, enfin, je veux dire, je pense qu'il y a un savoureux mélange qui on espère que ça va vraiment continuer et puis encore offrir de belles choses. Après, faut pas non plus s'enflammer, je pense, mais voilà, en tout cas, on prend du plaisir. Moi, perso, je prends du plaisir à voir les actions de jeu, notamment encore sur le but d'Achille, pas le but, mais la passe décisive d'Achille Anani, là, pour... j'ai oublié le buteur, déjà, mais...
Diallo.
Mamadou Diallo, ouais. Mamadou Diallo, exactement.
Ancien Nantais, lui, non? Il n'était pas à Nantes.
Non, c'était un gars de la région.
Pierre, il pense que Nantes, c'est le centre.
Arrête.
Et justement, voilà. est-ce que tu, ça, toi qui as connu la grosse époque de la montée en Ligue 2, en Ligue 1, pardon, est-ce que tu ressens pas justement cette bonne ambiance qu'il y a dans le groupe qui pourrait créer quelque chose?
De ce que j'entends, l'ambiance effectivement est tellement bonne que ça pourrait laisser présager de vraiment de belles choses. De là à parler d'une montée en Ligue 1,
est-ce que c'est peut-être trop tôt.
Voilà, est-ce que ce serait pas trop tôt? Est-ce que
faut faire le point en décembre déjà?
Bah oui, après c'est comme tout. Hein. Après, faut laisser le temps au temps. En décembre, effectivement, il y a déjà un premier point qui sera fait, je pense. Après, voilà, il y a un travail qui a déjà été effectué sur quelques années déjà là. Donc voilà, si on arrive à garder des éléments importants comme Jesse Benet. Voilà, notamment, je parle de lui, il y en aurait d'autres. Mais si on arrive à garder des éléments importants comme ça...
Il a presque le niveau Ligue 1, Jesse Benet. Hein.
Ça peut.
Bah, il a le niveau pour jouer dans un club...
Comme Angers, Dijon,
Lens, enfin voilà. Pour moi, il a le niveau.
Après, c'est des gens, sans lui manquer de respect non plus, mais c'est des gens, effectivement, quand on les voit au premier abord, on se dit, bon, le mec, il est pas...
Il paye pas de mine.
Rapide, il paye pas de... Ouais, sans lui manquer de respect, hein. Mais au contraire, enfin, je veux dire, quand on le voit balle au pied, voilà, c'est bon, quoi, le gars est... Donc voilà, non, c'est des gars qu'il faut, effectivement, on arrive à les garder, parce que nous, le plus difficile, c'est de garder les bons joueurs, parce qu'on sait qu'on n'a pas un budget qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire des folies. Mais voilà, donc on a, en tout cas cette année, on a des joueurs de qualité.
Et justement, attention, info de dernière minute, tu sais, je viens de l'avoir, on vient de m'envoyer un message. Manu Pérez se serait mis d'accord avec le GF38, le joueur de Lens, pour revenir au club.
Hein. Ah ouais?
Ça
vient de paraître sur l'équipe, hein, donc il y a, voilà, le joueur serait d'accord. Maintenant, il reste peut-être à regarder tout ça. Ça serait une très très bonne nouvelle.
Ouais.
Ah bah oui, je crois que si ça se fait exactement, ça pourrait être une très très bonne nouvelle. Je pense que les dirigeants ont compris une chose aussi, et je pense que c'est que les enfants de la maison, ils ont une place importante au sein du club.
Ouais.
C'est comme tout,
pour retrouver l'identité du club.
On a fait des erreurs dans le passé, et peut-être que
qu'il passe un coup de fil à Leonardo.
Mais peut-être que maintenant, les dirigeants se sont rendus compte aussi que c'était important d'avoir des gens qui connaissaient très bien la maison et qui avaient en plus une aura auprès des supporters aussi, parce que c'est important. Il n'y a pas que l'aspect club en interne, il y a aussi l'aspect autour du club qui est aussi important. Mais effectivement, si c'était avéré, je pense qu'effectivement, ce serait un...
On aura la confirmation.
Ouais, bon, on verra.
C'est assez étonnant parce que tu vois, bon, je vous vois, c'est vrai que Grenoble, je le découvre aussi un petit peu parce que je suis nantais à la base et chambérien, donc c'est pas un club que je suivais depuis quelques années. Avec tous les amis que j'ai qui suivent Grenoble et puis maintenant vous qui faites que, entre guillemets, elle est dans la continuité de ce qu'on me dit, c'est incroyable la prudence des supporters grenoblois.
Oui, c'est vrai.
Je veux dire, moi je viens de Nantes. Nantes, quand ils étaient redescendus en Ligue 2, qui jouaient les premières places après 6 journées, on était tous dans l'euphorie, on les voyait. Alors je ne sais pas si c'est le traumatisme qu'avait eu Grenoble d'être descendu de l'élite comme ça et d'avoir dégringolé sur toutes les divisions, mais à chaque fois que j'en discute avec quelqu'un, alors Grenoble fait.
Oui, mais un parce bon qu'on a, on a vécu des choses. On était monté tellement haut, entre guillemets, avec cette première année en Ligue 1 qui avait été fantastique. Et on est redescendu tellement bas, tellement vite que tu préfères être prudent.
Par contre, tu penses que c'est de la prudence, la Suède ?
Ouais.
Ouais, ouais, mais c'est con. Bah, je pense que de toute façon, le vrai supporter grenoblois, justement, il sait par où on est passé. Effectivement, cette année de, quand on est monté en Ligue 1, c'était une euphorie complète. On était sur un nuage parce que il y avait un engouement. Il y avait un engouement dans la ville, il y avait un engouement partout, quoi. Ça vivait, ça respirait. De toute façon, Grenoble respire le football. Et pour qu'il y ait du monde au stade, il faut de toute façon que le club soit, entre guillemets, au sommet. Ouais. Mais voilà, cette prudence, on a tellement eu, et la deuxième année de Ligue 1, il faut dire qui, elle a tellement été galère. C'était vraiment une année pourrie. C'est l'année qui a fait couler le... De toute façon, cette année-là, c'était l'année des... L'année où on a échoué surtout. Et l'année de Ligue 2 qui est arrivée derrière, c'était pire. C'était une catastrophe. Donc du coup, on a vécu des moments vraiment, vraiment pas agréables, difficiles, où c'était même l'anarchie, j'ai pas honte de le dire, c'était l'anarchie complète dans l'équipe dirigeante, le staff, tout ça. C'était un bazar sans nom. On n'avait jamais... Je pense qu'on ne pouvait pas faire pire que de gérer un effectif pareil. Et puis voilà. Mmh. Donc c'était dur. Et on peut très vite arriver dans les premières places, comme on peut très très vite redescendre. Il suffit. Après, je ne suis pas non plus... j'ai pas une expérience sensationnelle, mais on a déjà vu par le passé qu'on peut être très bien à un moment. Tout est psychologique. S'il y a une bonne entente, il y a tout ça.
Après, ouais, le cercle vertueux.
Les résultats qui commencent à arriver, des fois, on peut très vite piquer du nez.
En tout cas, on va croiser les doigts. Massuette, pour finir, est-ce que tu as un message à donner aux supporters du GF38?
Non, moi je passe un grand coucou déjà à tous ceux qui me connaissent et tous ceux avec qui j'ai pris énormément de plaisir à passer toutes ces belles années. Je continue d'en voir de temps en temps lors des déplacements autour de chez moi. Et voilà, donc après, c'est que tous les vrais supporters, de toute façon, on les connaît, on sait qui c'est. Eux, ils lâcheront jamais leur club, quoi qu'il arrive. On l'a bien vu lors des dernières descentes. Voilà, donc
ils sont toujours là.
On a besoin, le club a besoin d'avoir du monde derrière lui pour pouvoir continuer à gravir les sommets. Et puis voilà, je pense qu'on y arrivera. Faut prendre le temps. On a une équipe dirigeante qui a l'air d'avoir les pieds sur terre, en tout cas. Donc voilà, je pense un gros coucou à tout le monde et je vous remercie de...
Un grand merci à toi.
Merci
à toi et puis j'espère à très bientôt.
Ouais, bah écoutez, avec grand plaisir. Au voilà,
plaisir.
Et puis continue à faire
salut mon Guillaume.
C'est très bien.
Merci beaucoup.
À plus tard.
Ciao, ciao. Salut. Ah, quel plaisir d'avoir la Suède avec nous aujourd'hui. Oh, ça va nous empêcher de faire le quiz, hein.
Ah, mais moi, ça m'énerve.
Mais non, parce que tu vas pas gagner aujourd'hui.
Je voulais
vous
le faire
tout le temps.
Je voulais vous le faire. On avait un jingle magnifique,
on le fera la semaine prochaine. Allez, je te fais un kiff, mon Kevin. Je te fais un kiff.
RKS Football Show, le quiz.
Le quiz. On fera ça la semaine prochaine.
On commence par le quiz.
Messieurs, à la fois par le quiz. À bientôt. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Suivez-nous sur RKS 97 FM. Ciao, ciao.
Ciao.
Le RKS Foottime Show. Ils aiment le foot. Ils sont amis, mais ils ne sont jamais d'accord. Rejoignez Melvin, Pierre et Kevin dans la nouvelle émission de débat 100% foot sur RKS.